Moi, à la base, la clinique virtuelle, c'est une entreprise que je veux vendre. Fait que quand que je la construis, toutes les décisions que je prends en ce moment sont toujours calculées, sont toujours mesurées dans l'optique que moi, je veux vendre cette entreprise-là. Donc, mon objectif, moi, j'aime démarrer des projets, j'aime démarrer des entreprises, fait que je me vois pas travailler 40 ans de temps dans mon entreprise. Alors qu'il y a d'autres entrepreneurs que c'est ça leur bébé. Eux, ils pondent le bébé puis ils veulent le voir grandir. Moi, je vais en pondre plein de bébés.
Mon nom est Antoine Gagné et je vous souhaite la bienvenue au 30e épisode du podcast Hypercroissance, présenté et produit par J7 Media, une agence de publicité Facebook. En gérant près de 1 million de dollars de publicité Facebook par mois, J7 Media aide depuis 8 ans maintenant les entreprises à accélérer leur croissance via l'entremise de la publicité Facebook et Instagram. Si vous êtes un commerçant en ligne et que vous désirez passer de croissance à hypercroissance, rendez-vous au www.j7media.com et demandez à parler avec un de nos conseillers. En l'espace de quelques jours seulement, notre équipe saura vous bâtir un plan de match afin de faire grandir votre entreprise. De plus en plus d'organisations commencent à voir l'importance de pouvoir opérer à distance. Le nouveau monde dans lequel on vit, n'ayons pas peur des mots, pousse les entreprises à se réinventer et trouver une manière d'être efficace sans nécessairement avoir tous les employés dans le même lieu en même temps. Mon invité aujourd'hui va vous expliquer comment, avant même la crise du COVID-19, elle a bâti son entreprise avec un modèle lui permettant d'être opérationnel de n'importe où dans le monde. Caroline Brousseau, propriétaire de la boutique en ligne La Clinique Virtuelle, partage avec nous aujourd'hui les étapes qu'elle a parcourues dans la dernière année afin d'atteindre 300 000 $ de chiffre d'affaires mensuel en seulement 12 mois d'opération. Encore une fois, les amateurs de commerce en ligne vont être servis. Sans plus attendre, ma discussion avec Caroline Brousseau. Caroline Brousseau, tu es la fondatrice de l'entreprise Clinique Virtuelle, une organisation qui a pour mission de rendre plus accessibles les services psychologiques professionnels. En plus des services à distance, tu vends également sur ton site web plusieurs produits aidant à contrer l'anxiété comme des couvertures lourdes ainsi que des journaux cognitifs. En 18 mois d'activité, tu es déjà rendu à plus de 300 000 $ de revenus mensuels avec ton entreprise. Caroline Brousseau, merci beaucoup d'être sur le podcast Hypercroissance aujourd'hui.
Salut Antoine, ça me fait plaisir d'être là.
Yes, Caro, l'objectif, vraiment, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, l'objectif du podcast aujourd'hui, c'est d'expliquer aux gens comment on peut créer / gérer une entreprise en forte croissance et ce, à distance, OK? Pour les gens qui nous écoutent, juste pour que vous le sachiez, Caroline est présentement au Nevada, son entrepôt, où est-ce qu'elle va livrer ses produits, est à Montréal, donc tout est fait à distance. Puis avant qu'on regarde précisément comment ta logistique fonctionne, peux-tu nous dire un peu là, c'est quoi la genèse de cette belle entreprise-là? Comment que tout a commencé?
En fait, je pense que l'entreprise avec l'Universal a parti un peu sous la même forme que n'importe quel entrepreneur. C'est parti d'un de mes propres besoins. Donc, à la base, j'avais un bureau de consultation, mais j'avais quand même ce besoin-là de pouvoir voyager partout. Donc, j'avais ce besoin-là de pouvoir pratiquer ma profession, mais en étant libre de le faire de où est-ce que je voulais. Donc, à la base, avant même que la clinique virtuelle existe, j'avais créé un petit site Internet facile où est-ce que les gens pouvaient prendre rendez-vous avec moi, puis que je pouvais faire de la téléconsultation. Et de ça est parti, ça a grossi rapidement parce que je me suis ramassée avec une clientèle qui était d'un peu partout à travers le Québec. Puis ça répondait aussi aux besoins de mes clients parce qu'ils se sont ramassés qu'eux aussi avaient plus besoin de se déplacer pour venir faire des consultations en bureau. Donc clairement, ça a allumé une puce qu'il y avait une niche à ce niveau-là. Puis c'est pas longtemps après, dans le fond, que j'ai démarré officiellement, que j'ai commencé à réfléchir au modèle d'affaires de la clinique virtuelle. Puis on a fait le lancement officiel à partir du 9 février, pas longtemps. Bien après. Et en fait, 18 mois plus tard, maintenant, la clinique virtuelle a desservi pas loin de 25 000 clients. On reçoit en moyenne à peu près 4 000 visites virtuelles sur notre site web à tous les mois. On crée énormément de contenu clinique et professionnel aussi sur nos réseaux sociaux. On atteint en moyenne 350 à 400 000 personnes à tous les mois. On dessert des Québécois aussi à travers le monde. Donc, ça leur permet d'avoir accès à des services québécois dans leur langue, même si eux aussi habitent dans d'autres pays. Et on débarque officiellement aussi, tu sais, 18 mois plus tard, on entreprend des démarches pour extensionner nos services aux États-Unis aussi. Donc, 18 mois avant, la clinique virtuelle a été vraiment créée avec 5 000 piastres cash, toutes mes économies que j'ai mis là-dedans. Fait que c'est vraiment un beau parcours en 18 mois, vraiment.
Ah non, c'est impressionnant la vitesse que vous êtes allé. Puis, Caro, juste avant qu'on débute le podcast, bon, les gens ils peuvent pas le voir aujourd'hui parce que c'est un podcast audio, on n'a pas le volet vidéo, mais tu m'as montré une une fiche là assez intrigante, parce que juste pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde, l'objectif vraiment c'est que Caroline puisse expliquer aux gens comment à distance en 2020 on est quand même capable de gérer une organisation, puis d'être capable de livrer ses colis à temps. Puis je tiens à vous le mentionner, son entreprise c'est pas du dropshipping, là elle a un vrai entrepôt, des vrais employés qui va livrer tous les produits. Puis j'aimerais que tu expliques aux gens qui nous écoutent ce concept-là, parce que c'est assez intriguant ce que tu m'as montré. Je pense que tu avais des valeurs, là, des fondations à la base très, très claires ancrées dedans de toi avant de lancer une entreprise. Il fallait que tout rentre là-dedans, là.
Oui, en fait, avant même de partir la clinique virtuelle, pour moi, j'avais des critères vraiment importants. Je savais déjà que je voulais être entrepreneur, puis j'avais entre autres des critères que je voulais qu'ils soient respectés. Fait avant même d'avoir trouvé le projet idéal que je cherchais, moi, j'appelais ça mon DDPA, qui était « chaque lettre représente quelque chose ». C'était quatre critères que l'entreprise que j'allais créer devait passer, respecter ces quatre critères-là. Sans ça, même si j'avais trois de mes quatre critères, je passais. J'étais comme non, c'est pas l'entreprise qui va convenir à mes besoins. Donc mes quatre critères, je les ai appelés les DDPA. Donc le premier D était la distance. Donc je voulais être capable de pouvoir opérer mon entreprise de n'importe où. Donc c'était le premier critère. L'autre c'était le domaine. Donc je voulais, c'était important pour moi que ça soit un domaine dans lequel j'avais les compétences pour. Le P c'est avoir des partenaires fiables. Puis le A c'est l'actionnariat. Donc pour revenir au point, le premier D qui était vraiment la distance. Donc, pour moi, c'est super important que je puisse opérer de partout. Puis aujourd'hui, la clinique virtuelle, ben, a respecté le projet de la clinique virtuelle, a respecté tous mes critères. Puis aujourd'hui, ben, je parle de la clinique virtuelle de parfois je suis aux États-Unis, parfois je suis à Montréal, parfois je suis en Abitibi-Témiscamingue. J'en parle vraiment à cette entreprise-là de n'importe où sans que ça ait aucun impact sur mon chiffre d'affaires ou sur ma gestion ou sur tous nos partenaires, tous nos contributeurs, tous nos fournisseurs.
Ça, c'est impressionnant. Puis, peux-tu me dire comment tu es capable d'architecturer ça? Parce que c'est beau de le mapper puis de le voir, là, de se dire, OK, tu sais quoi, moi, ça va être à distance que je vais faire. Mais comment par la suite, par où tu commences? Est-ce que toi, tu as commencé directement en disant, tu sais quoi, je vais aller trouver des bons fournisseurs? Parce que là, dès que tu savais c'était quoi le produit que tu voulais aller vendre, est-ce que tu es allé en Asie te dire, je vais trouver mes bons fournisseurs? Est-ce que tu cherchais déjà, disons, ton équipe de design pour un petit peu designer tes produits? C'était quoi ton processus vraiment pour commencer puis respecter ces valeurs-là?
Ben, c'est sûr que moi, à la base, je suis une cartésienne, fait que je bâtis des grilles pour toutes. Je suis même conscient que mon DDPA, avant même de partir, la clinique virtuelle, je me suis vraiment demandé, c'est quoi que je veux construire? C'est faut que ça réponde à quoi? Donc, après ça, quand est née l'idée de la clinique virtuelle, je suis partie de c'est qui que ça me prend? Puis là, j'ai dressé une liste de qui que ça me prenait. Puis de chacun des postes que ça me prenait, j'ai dressé une grille sur le même principe que le DDPA en déterminant c'est quoi les critères que cette personne-là devait avoir. Cette personne-là ou cette agence-là, peu importe. Donc, c'est comme ça aussi que j'ai bâti mon équipe. Pour moi, ça, je ne fais jamais de compromis sur les critères que je recherche. Et un des premiers points que je travaille avec, quand je bâtis l'équipe à l'heure de ça, c'est la confiance. Parce que je travaille à distance, donc je dois travailler avec des gens, je n'ai aucun compromis sur est-ce que l'expertise est là, est-ce que la confiance va être là. Fait que tout ça, c'est important que quand je signe un contrat avec une personne, que je m'assurais que les critères pour faire en sorte qu'il y ait toute ma confiance soit respecté. Donc, à partir, parce qu'on n'a pas le choix, quand tu travailles avec une équipe qui est à distance ou que quand t'es pas là physiquement avec eux, t'as pas le choix d'avoir une certaine confiance aveugle en eux parce qu'ils doivent livrer les résultats puis il faut que ça soit là. À partir du moment que tu te mets à arrêter d'avoir confiance en un de tes fournisseurs, tu pourras pas rétablir ça, avec la distance. Fait que pour moi, ça a été vraiment important que j'aie des critères bien précis puis que toutes les personnes avec qui on a signé des contrats respecte ces critères-là, puis aujourd'hui, d'avoir pris bien le temps de faire ça au début, fait en sorte qu'aujourd'hui, 18 mois plus tard, il n'y a pas un de nos fournisseurs, il n'y a pas un des contrats qu'on a signés qu'on a dû changer. Là. Aujourd'hui, toutes les gens qui ont commencé avec nous sont encore avec nous 18 mois plus tard. Et la confiance est encore là, autant dans les bons coups que dans les mauvais coups.
Fait que ça, c'est important, là. Je veux dire, tes partenariats. Puis comment tu fais? T'as-tu un processus de due diligence ou t'es-tu capable de voir des critères ou y a-tu quelque chose que tu pourrais dire aux gens qui nous écoutent de un genre de processus que tu suis pour bien back-checker tes partenaires d'affaires?
Oui, ben en fait, je vais donner un exemple précis par rapport à quand on a rentré. Ben, nous, nos produits, nos couvertures, par exemple, proviennent de la Chine. Donc, je me suis pas présentée en Chine pour aller visiter les fournisseurs. J'ai, via bon le Alibaba, que probablement beaucoup de gens connaissent, je savais exactement que je voulais pas affaire avec une entreprise qui avait moins de 10 ans d'expérience. Ça, c'était un de mes premiers critères dans ma grille. Fait que là, je filtrais tous ceux qui vendaient des couvertures pour Pondéry. Puis là, dans ma grille, je rentrais tout le nom des fournisseurs que j'avais trouvés, qui avaient 10 ans d'expérience, qui avaient le statut de gold, qui avaient que des bons reviews. Donc, automatiquement, sur les, si tu avais 500 commentaires, mais que tu en avais un, que tu avais un étoile au lieu d'avoir un 5 étoiles, tu rentrais pas dans ma grille. Fait que de tout ça, j'ai rempli, bon, j'ai sélectionné plein de fournisseurs, je les ai fait passer dans ma grille, être sûr qu'il y avait toutes les... Puis de ça est sorti 5 fournisseurs gagnants qui avaient tous les critères sans compromis. Et de ces 5-là, je les ai contactés, j'ai demandé des échantillons, j'ai établi des premiers contacts avec eux, j'ai reçu mes produits, je les ai lavés, je les ai déchirés, je les ai ouverts, je les ai pesés, il n'y a rien que j'ai pas fait. Et de ça, est sorti un gagnant. Et aujourd'hui, 18 mois plus tard, c'est toujours le même fournisseur avec qui je travaille, la personne qui est responsable en Chine là-bas de travailler directement avec moi. C'est une perle rare. On connaît très bien. On se parle souvent. On n'a jamais eu de mauvaise expérience avec ce fournisseur-là. Puis même aujourd'hui, j'ai tellement confiance en elle que même quand on développe des produits qui ne sont pas reliés au textile pour la clinique virtuelle, je passe par elle pour me trouver un fournisseur.
Intéressant, ça. Fait qu'un partenaire qui est établi pour la vie, ça.
Je l'espère vraiment, mais ils sont depuis 10 ans en opération, fait que je pense que ça va bien leur business, elles autres aussi. Puis tu sais, on travaille bien ensemble parce qu'on a toutes, tu sais, plus que j'achète, plus qu'elle grossit aussi. Fait que tu sais, c'est vraiment une belle collaboration. Ils nous accompagnent dans ce processus-là, ils nous accommodent sur plein de choses, puis on grossit toutes les deux ensemble en tant qu'entreprise. Puis pourtant, elle est en Chine, moi je suis au Canada, mais nos deux croissances mutuelles font en sorte que c'est gagnant-gagnant pour les deux.
Intéressant. Et Caro, tu as mentionné un truc un petit peu avant que tu parles de ton fournisseur en Asie. Tu as mentionné qu'avec tes partenaires, avec tes fournisseurs, tu dois développer cette certaine confiance-là. Donc, nous, on se connaît, je sais que tu travailles beaucoup avec des partenaires, mais moi, je veux avoir ta vision puis ta réflexion là-dessus sur... Parce que je sais même pas en date d'aujourd'hui si tu as vraiment des gens, des employés ou si tu as juste des partenaires un peu qui travaillent avec toi. Puis c'est ça que je trouve fascinant parce que tu as un volume de chiffre d'affaires impressionnant. Comme je le disais en début de podcast, tu as fait, $300,000 de revenus le au mois de mai ou au mois d'avril 2020, ce qui est énorme pour une entreprise. Puis je sais même pas s'il y a tant de gens qui sont employés dans ton organisation. Peux-tu me parler de ta vision par rapport à ça, si c'est mieux peut-être d'aller s'entourer de partenaires dans un modèle d'affaires comme le tien ou d'avoir des gens sur le payroll comme des employés?
Ben, c'est sûr qu'à la base, la clinique virtuelle, ben, en ce moment, on n'a pas d'employés. Donc, toutes les gens qui travaillent pour la clinique virtuelle sont des contractuels. Parce que, quand tu démarres une entreprise, t'as pas nécessairement, c'est compliqué d'avoir des employés, une certaine logistique administrative puis de comptable aussi en arrière de ça. Donc, au début, je ressentais pas le besoin d'avoir des employés. Je le ressens toujours pas plus, parce que les partenaires avec qui je travaille répondent bien à ces besoins-là. Donc, c'est pas une entreprise. La clinique virtuelle, c'est très simple. C'est une logistique très simple. Ça ne nécessite pas des employés. Est-ce que ça va en nécessiter plus tard? T'sais, là, on est en train de réfléchir pour s'implanter aux États-Unis, mais ça reste que c'est un modèle d'affaires qui est très simple, qui est très facile à gérer. Je porte, moi, tous les chapeaux dans cette entreprise-là, de la directrice à la gestionnaire des réseaux sociaux, à la gestionnaire du service à la clientèle. Donc, je porte vraiment tous les chapeaux. Puis moi, comment je vois mon rôle là-dedans, c'est de m'assurer que les personnes qui sont contractuelles, comme c'est pas moi qui réponds aux clients directement, j'ai une personne qui est responsable pour le service à la clientèle, mais moi, mon chapeau de gestionnaire, c'est de m'assurer qu'elle transmet le message général de la clinique virtuelle, qu'elle répond à mes clients de la même façon que je le ferais moi, qu'elle parle comme si c'était moi qui s'adressais à mon client. Donc, on n'a pas d'employés, on est 100% contractuel parce que un de mes objectifs avec la clinique virtuelle, c'est que ça reste une logistique simple et facile d'opération de n'importe où. Et pour que ça soit opérationnel de n'importe où, ça doit être simple à contrôler puis à diriger.
Mais c'est ça qui est paradoxal, c'est que créer un modèle simple comme tu as créé puis que tu continues à créer, c'est complexe. C'est complexe, tu sais, c'est ça la beauté de la chose. Quand tu es capable à la fin de la journée d'avoir un modèle comme tu le dis qui est simple, faut pas que les gens qui nous écoutent aujourd'hui pensent que créer un modèle de même, ça se fait en deux temps, trois mouvements. Là, t'as pensé, t'as bien architecturé le tout. Puis parle donc un peu de ça. Là. Donc, parce que là, si on fait l'analyse, 18 mois d'opération, 12 mois par contre seulement de vente de produits physiques, puis je pense qu'on peut se le dire, c'est une bonne partie de tes revenus, là, la majeure partie de tes revenus. Donc, en un an, tu étais capable d'atteindre des chiffres assez exceptionnels. Des bons coups, on pourrait quasiment penser que c'est une histoire Cendrillon. Peux-tu nous parler des enjeux un petit peu? Parce que là, je peux pas croire que tout le temps en rose, le monde aujourd'hui, ils vont dire qu'on est des menteurs sinon. Là.
Oui, ben en fait, il y a vraiment des bons coups, des mauvais coups. Tu sais, je donne un exemple bien précis. Dans n'importe quel volet d'entrepreneuriat, il y a toujours des hauts et des bas. Justement, un peu avant qu'on commence le podcast, j'avais une discussion justement avec toi, Antoine, où est-ce que je te disais que je suis dans une période difficile parce qu'il y a des moments tough, puis bon, ça a été super euphorique parce qu'on vient de passer dans l'œil du dragon, c'était le fun. On a eu vraiment un beau chiffre d'affaires, ça a explosé les ventes, à un point où est-ce que notre carrière, tu sais, la veille qu'on passait dans l'œil du dragon, notre cargaison pleine de couvertures de produits thérapeutiques arrivait, on avait au-dessus de 2000 couvertures. On était comme, oh my God, ça va être, on manquera pas de stock. En 48 heures, c'était sold out. Tu sais, c'est euphorique comme sentiment. T'es comme, aïe, c'est malade. Puis ben après ça, tu sais, il y a eu tout les problèmes de. Là, après ça, il est venu une panoplie de problèmes de logistique parce que à cause du confinement, on a eu beaucoup de problèmes avec Post Canada. Les commandes, ça a pris 2 à 3 semaines avant qu'il y ait des gens qui reçoivent leur colis. Aujourd'hui, 3 semaines plus tard, il y a encore des gens qui attendent après leur colis. Nos couvertures sont perdues dans les entrepôts. À travers ça aussi, ben je suis une entreprise qui offre des services professionnels de la santé. Donc, on est régi aussi à respecter des codes de déontologie de des ordres professionnels. Donc, on a eu des inspections, des investigations par rapport à ça. On doit répondre de nos actes par rapport à ça. Donc, on doit aussi fournir énormément de documents. On doit répondre à cette investigation-là. Il y a vraiment ça menait un coup dur où est-ce que ça a été beaucoup de travail, beaucoup de logistique, beaucoup d'orchestration pour mettre ça de l'avant, s'assurer qu'on était conforme, qu'on a passé à travers ça, puis on va passer à travers ça, puis ça va au bout, ou à la fin de l'année, quand on va regarder le topo global de l'année, ça va avoir été une super belle année vraiment de croissance puis vraiment explosive. Mais des périodes comme ça, quand tu es sous investigation, que tu as des panoplies de documents à finir, à remplir, que tu dois régler des problèmes au niveau de la logistique, que tu as perdu des couvertures à travers ça à cause des problèmes de confinement, de pandémie, c'est plein de beaux exemples de moments qui sont moins le fun dans le côté entrepreneurial.
Non, effectivement. Mais c'est parce qu'à la vitesse, des fois, que quand on va très, très vite, à un certain point, on n'est même pas capable de planifier une croissance comme ça. Puis, c'est un terme que je voudrais garder ici. Puis je voudrais t'entendre là-dessus, le mot planification. J'aimerais que tu me dises comment que tu arrives à tout planifier un petit peu ton volet logistique. Tu l'as dit, ça a été un de tes plus gros enjeux que tu as eu dans les dernières semaines. Comme n'importe quel e-commerce que je rencontre, que je discute, c'est tout le temps la même chose. Hein? C'est l'œuf ou la poule. Donc, on pense qu'on va faire beaucoup de ventes. Finalement, on fait pas assez de ventes. On est un petit peu déçu ou on en fait trop, mais on n'a pas assez de stock. Donc, on est tout le temps pris un petit peu, des fois, dans cet engrenage-là qui ne termine pas. Je voudrais t'entendre là-dessus. Comment tu arrives à planifier un petit peu des périodes qui vont peut-être être plus fortes, comme tu dis que tu as eu un passage à la télévision récemment? Le Noël, les périodes de novembre, décembre, des fois, sont très fortes au niveau du e-commerce. J'aimerais ça que tu nous parles de comment qu'une entreprise en ligne peut simplifier sa planification pour être certain de, on l'espère, pas manquer de stock là, dans des grosses périodes.
C'est sûr que nous, notre première année, tu sais, c'est Antoine, tu l'as mentionné, ça fait seulement 12 mois qu'on a une boutique en ligne. Puis, tu sais, ta première année, t'as aucun data sur quoi t'asseoir pour réfléchir. T'sais, tes 12 premiers mois, là, c'est vraiment de l'aveuglette totale. C'est qu'il y a pas, j'ai pas de bons ou de mauvais conseils là-dessus. C'est quoi ta capacité à toi de vendre ces produits-là? Tu penses que tu vas en vendre combien dans ton mois? On analyse à peu près ton marché, mais c'est du guess, là. C'est basé sur rien à part ton feeling. Puis un peu de statistique au niveau du marché, c'est tout. Fait que c'est sûr que ce que ça a occasionné, c'est que nous, dans la première année, on a été 3 fois sold out. Là. 3 fois où est-ce qu'on a sous-évalué le potentiel d'achat. Puis, ben, quand tu fais affaire avec un fournisseur en Chine, ça prend 3 mois avant que tu récupères ton inventaire. À partir du moment que tu le commandes jusqu'à ce qu'il arrive à ton entrepôt prêt à vendre, ça prend 3 mois exactement. Fait que quand tu te ramasses sold out, ça a un méchant impact sur ton chiffre d'affaires, parce que là, tu dois user de stratégie pour dire, ben, comment je vais faire en sorte que je me ramasse pas de chiffre d'affaires pendant 3 mois de temps, le temps que mes couvertures arrivent. Fait que, tu sais, ça, c'est quelque chose qu'on a dit de travailler beaucoup, ben, entre autres avec toi, Antoine, avec Michel, parce que c'est arrivé plusieurs fois qu'on était comme, ben, là, on fait quoi? Fait qu'on devait user de stratégie en offrant des préventes, en offrant des meilleurs discounts sous des formes de préventes pour faire en sorte que ça ait le moins d'impact possible. Mais ça a quand même fait qu'on a perdu des portions de chiffre d'affaires à cause de ça, à cause que à ce moment-là, on était aussi une jeune entreprise, on n'avait pas de data sur quoi s'appuyer, on n'avait pas non plus le cash flow. Tu sais, quand tu commences, moi, j'ai lancé mon entreprise sans dette. Puis aujourd'hui, la clinique de sol n'a encore aucune dette parce qu'on voulait pas s'endetter. Fait que tu sais, c'était comme, ben, on vendait, on prenait ce cash flow-là, on le réinvestissait tout en inventant, on faisait à chaque fois, ce qui a fait qu'on s'est ramassé 3 fois sur d'autres, ce qui fait qu'encore aujourd'hui même, au moment où je fais le podcast, mes 2000 couvertures qui ont été vendues en 48 heures, je suis sur d'autres pour les 3 prochains mois. fait comment on réussit à faire ça? Ben, tu fais ton possible. C'est ça que j'ai vu à dire. nous, comment on le fait, c'est que, c'est quelque chose que je pense avoir, être capable de vraiment améliorer mieux dans ma prochaine année 2020. C'est un de mes objectifs, c'est de travailler beaucoup plus à la vente. En ce moment, on travaille à chaque trimestre. Donc, on essaie de prévoir comment qu'on va vendre de couverture pour être toujours capable d'avoir notre inventaire quand on commence le trimestre. Parce que la réalité des faits, c'est que j'aimerais ça avoir du cash flow pour acheter 9 trimestres d'avance, mais la réalité, c'est pas ça. Non, en ce moment, dans la première année, c'est comme ça qu'on a fonctionné. On a fonctionné 3 mois à la fois, trimestre à la fois, en faisant notre cash flow Puis on pouvait pas faire mieux parce que de toute façon, on avait juste un an d'opération. Mon année prochaine, je vais avoir du data beaucoup plus précis. Donc, je pense que l'année prochaine, je vais être capable de travailler beaucoup plus d'avance, pas juste 3 mois d'avance. J'espère être capable de travailler 6 mois d'avance, donc toujours 2 mois de trimestre d'avance pour faire en sorte que, j'espère, un de mes objectifs pour l'année 2021, c'est de n'être plus jamais sold out.
OK. Moi, je te poserais une question. Tu as parlé des préventes, des campagnes de prévente que tu as faites. Je parle avec beaucoup de gens. Je vois souvent que c'est une technique que les gens vont prendre, qui vont vendre en avance, même sans nécessairement avoir encore le stock, qui savent quand que le stock va arriver. Ils savent que le stock va venir. Ils savent que ça devrait arriver à un certain point, mais ils l'ont pas encore et ils vendent en avance. J'aimerais que tu me dises un petit peu les bons, les avantages puis les moins bons coûts reliés à ça, parce que, comme tu as dit, tu n'as pas envie d'arrêter de vendre, tu veux continuer à faire du chiffre d'affaires, mais il y a peut-être un petit peu des enjeux reliés à ça également, que certains clients ils vont peut-être dire « ouais, ça va prendre du temps avec mon produit arrive ». Qu'est-ce que tu dirais par rapport à ça? Ça serait quoi ton opinion là, par rapport aux préventes au niveau des bons et des moins bons coûts qui viennent avec ça?
Ben, moi, je pense que l'avantage de tout, c'est que ça permet, le premier point, c'est que ça permet d'empêcher ton entreprise d'être sans chiffre d'affaires pour jusqu'à ce que tu reviennes. Fait que ça permet de générer quand même du cash flow, de continuer à pouvoir payer tes dépenses opérationnelles, même si tu n'as pas le stock. Puis, c'est sûr que l'inconvénient que ça fait, c'est que ça crée qu'il n'y a pas tout le monde qui va être convaincu d'acheter. T'sais, il faut que tu aies une certaine notoriété de ton entreprise pour réussir à convaincre un de tes clients de dire « Hey, fais-moi assez confiance, fais-moi tout de suite ta couverture, tu vas l'avoir juste dans 2 mois ou dans 1 mois. » Il faut que tu aies cette notoriété-là, il faut que tu aies cette solidité-là. Il faut que la confiance que ton client a envers toi-même, il faut qu'elle soit là. Donc, nous, tu sais, je pense que si on a réussi à bien le faire, on a une belle notoriété sur les réseaux sociaux, on a une communauté qui est très, très active, on a énormément de nos clients qui nous écrivent des bons commentaires, on n'a jamais demandé à nos clients d'aller nous écrire des reviews. Pourtant, ils font d'emblée, on a plein de beaux commentaires. Les gens, même sur nos publicités Facebook, les gens vont venir partager leur expérience avec les produits. Fait que tout ça, ça nous a permis de créer cette confiance-là. Donc, ça permet ça de faire des préventes. Est-ce que quelqu'un qui n'a pas de notoriété, qui vient de démarrer une entreprise, peut partir en prévente? Je sais pas, je pense qu'il y a une réflexion à avoir en arrière de ça sur qu'est-ce que tu vas dégager comme signe de confiance. Donc ça, je pense que c'est l'avantage au moment où est-ce qu'on s'est ramassé sur le dos, mais on avait déjà cette notoriété-là parce que nous, on a commencé à vendre des produits seulement 6 mois après être complètement opérationnel. On est souvent présent. Charles Montigny, qui a été le visage un peu de notre entreprise, a fait souvent des Facebook Live avec nos clients où est-ce qu'ils pouvaient venir nous poser des questions. On voyait qu'on était vraiment des personnes physiques là. Donc ça l'a beaucoup aidé. Je pense que les inconvénients aussi, c'est sûr que tu gères, il y a plus de logistique en arrière de ça. Donc, il faut que tu sois, encore là, il faut que tu aies vraiment un bon lien de confiance avec ton fournisseur. Il faut que tu sois sûr que la date que tu prétends avoir tes produits qui vont vraiment être là à temps puis qui vont arriver dans un état où est-ce qu'ils sont parfaits, prêts à expédier, prêts à vendre. Donc, il fallait que cette confiance-là soit là avec notre fournisseur, que quand nos couvertures allaient arriver, il allait être impeccable, top-notch, puis prêt à vendre, puis qu'il n'y aurait pas à avoir de délai supplémentaire. Puis nous, ça s'est toujours bien passé parce que il y a toujours une très bonne communication avec notre fournisseur en Chine. Il nous envoie régulièrement des topos de où est-ce que notre cargaison est rendue, ce qui nous permet d'envoyer aussi des updates à nos clients pour leur dire « Hey, vos couvertures sont en vienne, on fait juste vous dire qu'ils sont rendus à tel endroit. Comme prévu, on va être capable de livrer à temps. » Est-ce qu'entre-temps, on perd certaines ventes parce qu'il y a des clients qui entre-temps changent d'idée? Ben oui, mais en même temps, c'est correct, on les rembourse, on s'assigne pas avec eux, tu as le droit. Tu sais, en fait, c'est au bout du compte, c'est le client qui décide de te faire confiance ou pas. Puis à partir du moment qu'il décide de te faire confiance et de dire « moi, oui, je réserve mon produit tout de suite », on s'en reparle dans 2 mois, c'est sa décision à lui. T'sais, est-ce qu'on perd des ventes à travers ça? Oui, probablement, mais en même temps, au bout du compte, le client, lui, a rien à perdre dans tout ça parce que peu importe, il peut annuler aussi sa commande quand il veut.
Intéressant. J'aimerais ça t'entendre un petit peu sur le volet des ventes de services. OK. Donc là, on parle beaucoup des produits présentement que vous vendez sur votre site Internet. Vous vendez également des prestations de services à distance. J'aimerais que tu me dises un petit peu comment que ces deux-là vont se marier ensemble. OK. Je te donne un exemple, Caro. Il y a énormément de gens souvent que ce qu'ils vont faire, c'est que dans leur tunnel de vente, dans leur campagne qu'ils vont faire, dans leur campagne de publicité, ils vont utiliser un peu leurs prestations de services pour, entre parenthèses, rentabiliser leur investissement publicitaire parce que des plus grosses marges de profit souvent qui vont se faire là-dessus. Par la suite, ils vont vendre des produits aux gens qui ont acheté des services. Donc, les deux travaillent très, très bien d'une manière complémentaire. Puis ça, je trouve ça intelligent de le faire. J'aimerais t'entendre là-dessus. Est-ce que toi, continuellement, quand tu vas faire une téléconsultation, là, donc une consultation à distance avec quelqu'un ou un partenaire chez toi qui va le faire, est-ce qu'il y a un sujet également par la suite à essayer de vendre un produit à ces gens-là? Est-ce que les deux travaillent bien ensemble?
Non, les deux en lien avec nous, on fait face à des ordres professionnels qui régissent des professions. Donc, c'est important d'un de savoir que Moi, Caroline Bourceau, je ne fais pas de je fais pas de la téléconsultation. J'ai engagé une firme experte en téléconsultation qui ont un bassin d'une cinquantaine de professionnels de la santé, donc ils ont des psychologues, des travailleurs sociaux, des médecins, ils ont de la télémédecine, ils ont des infirmières, ils ont des ergothérapeutes. Donc moi, tout ce qui est la téléconsultation, encore là, c'est donner un partenaire de confiance qui est solide depuis des années, depuis plus de 20 ans dans le domaine de la consultation médicale. Donc tout le service professionnel est donné à une firme externe. Pourquoi aussi? C'est qu'en fait, un professionnel de la santé n'a pas le droit de vendre un produit personnellement à un de ses clients qui est en téléconsultation. Bon, par principe qu'il y a une certaine position d'autorité quand tu es avec un client qui consulte, donc tu n'as pas le droit de lui dire « Oh, by the way, achète ce produit-là, tu vas voir, ça va vraiment régler tous tes problèmes d'anxiété. » Donc, c'était super important que légalement, il y ait une grande dissociation entre la clinique virtuelle qui vend une couverture apaisante pour t'aider à gérer ton stress versus le psychologue qui est en consultation avec un client. Donc, nous, ça devait être complètement dissocié. Donc, au niveau marketing aussi, c'est pour ça qu'on ne peut pas mixer tout ça puis dire, prends une consultation avec un produit, tu vas super bien dormir, tu vivras plus jamais d'anxiété. Donc, il y a beaucoup de législation, de codes de déontologie. Fait que pour nous, à la clinique virtuelle, c'est deux départements complètement différents qui sont traités de deux façons complètement différentes avec des logistiques complètement différentes aussi.
À un certain point, t'aimerais-tu que ça soit deux brands complètement différents?
Non, parce que une des missions principales de la clinique virtuelle, c'est de redonner du pouvoir aux clients. Tu sais, le but de la clinique virtuelle, c'est de faire en sorte que notre but à la clinique virtuelle, c'est d'éviter de te ramasser en thérapie. Donc, nous, on croit vraiment qu'il y a un trou énorme entre ce que le service public et le service privé offrent, dans le sens où est-ce que quand je vois pas bien, je fais de l'anxiété, je sais que je fais de l'anxiété, je sais que je vois pas bien, mais je ne sais pas quoi faire parce que j'ai pas les connaissances face à cette émotion-là que je sais pas comment gérer, versus je vais dépenser 1 200 $ dans une thérapie parce qu'aller rencontrer un psychologue dans son bureau, c'est à peu près ça, c'est entre 100 et 150 $ par session. Puis ça prend en moyenne à peu près 10, une dizaine de sessions avant que tu sois capable, dépendant de la situation de chacun. Mais il y a rien entre les deux, alors qu'il y a plein de gens qui, en ayant les bons outils thérapeutiques ou les bons produits thérapeutiques ou le bon contenu clinique, pourraient s'éviter une thérapie, puis c'est ça la mission de la clinique virtuelle. Par contre, est-ce que ça empêche qu'on veut quand même pouvoir offrir la possibilité aux clients qui, malgré ça, qui reçoit du contenu clinique ou qui reçoit ou qui écoute notre formation en ligne sur la gestion d'anxiété ou qui a reçu sa couverture pondérée, il y a quand même ce besoin-là de voir un psychologue, ben on veut quand même pouvoir l'offrir. Fait que de dire que non, qu'on va un jour peut-être séparer les deux compagnies, non, parce que la mission de la clinique virtuelle, c'est d'être capable d'offrir à un client qui ne va pas bien toutes les ressources nécessaires pour mieux aller. Passant par la formation en ligne ou par des produits ou par de la téléconsultation, prends ce que toi, tu as besoin.
Intéressant. Donc, Caro, on vient de parler un peu du volet plus opérationnel de ta business. Comment que tu vas gérer logistique? Comment que tu vas être capable de mieux prévoir tes cargaisons? Savoir un petit peu comment tu vas dealer avec tes préventes. Maintenant, j'aimerais qu'on sorte un petit peu du volet opérationnel puis tu me parles de comment toi, t'es capable de bien, on va dire, architecturer ton futur. Qu'est-ce que je veux dire par là? Beaucoup de gens que je parle, souvent vont me dire qu'à un certain point, ils ont comme un North Star. Il y a quelqu'un qui va les guider, qui va les mentorer sur certains aspects. J'aimerais ça t'entendre là-dessus. Est-ce que toi, t'as un mentor? Est-ce que toi, tu t'entoures de gens qui vont te donner beaucoup de conseils sur une base hebdomadaire, sur une base mensuelle? J'aimerais ça t'entendre là-dessus.
Oui, ben en fait, le premier investissement que j'ai fait, en fait, était sur moi. Ou est-ce que moi, je suis continuellement je suis beaucoup de formations, je lis des livres, des podcasts, je vais dans plusieurs congrès aussi. Je pense que d'investir sur soi-même, dans ses connaissances, c'est un des meilleurs investissements. C'est à ne pas négliger en tant qu'entrepreneur, je pense. Puis aussi, ben c'est sûr que le jour 1 où est-ce que j'ai démarré mon entreprise, j'ai déjà fait les démarches pour avoir un mentor. Quand tu démarres, moi, je viens pas d'une famille où est-ce que on n'est pas entrepreneurial dans ma famille. Donc, j'avais personne dans ma famille qui aurait pu me guider là-dedans. J'avais aucune connaissance, aucune base non plus. J'ai pas des études non plus en entrepreneuriat. Donc, j'ai pas un MBA, je suis pas allée où HEC non plus. Donc, c'était important pour moi de pouvoir être guidée par une personne qui avait déjà plusieurs années d'expérience et ça a été un de mes meilleurs moves. Puis, je pense que si aujourd'hui, le succès qu'il y a derrière la clinique virtuelle et la croissance qu'il y a derrière de la clinique virtuelle, je ne me l'attribue pas à 100%. Au contraire, je l'attribue à, dans un, l'équipe, toutes les gens, nos partenaires qui sont avec nous, mais aussi mes mentors qui me guident là-dedans, parce que sinon, il y a plein d'erreurs que j'aurais fait que j'aurais pas su. Donc moi j'ai un mentor depuis le jour 1, ben en fait j'en ai pas un, j'en ai trois. Qui sont avec moi depuis le début, qui sont encore avec moi un an plus tard à me conseiller, puis ils ont vraiment toutes des spécifications bien précises, ils sont là pour des raisons bien précises. Je sais exactement quand j'ai des questions sur exemple ma logistique, je sais exactement qu'il faut que je parle à ce mentor-là. J'ai des questions plus au niveau de mon développement international, mais il faut que je parle à ce mentor-là. Donc pour moi c'est super important puis des mentors t'en auras jamais assez là à mes yeux.
Je fais une petite parenthèse sur le podcast en cours afin de vous remercier tous et chacun qui nous écoute. Vous êtes des milliers chaque mois à écouter Hypercroissance et ça me touche du fond du cœur. Également, si vous connaissez quelqu'un qui aurait sa place sur le podcast pour nous parler d'hypercroissance, je vous invite à m'écrire personnellement au email suivant agang@j7media.com, donc A-G-A-G-N-E, à commercial, J, le chiffre 7, média au singulier, .com. Et ça me fera un énorme plaisir de discuter avec vous. De retour à l'épisode en cours. Tu as dit, là, quand tu as des enjeux spécifiques, tu sais qui aller voir. Comment tu maps ça? Est-ce que tu reverse engineer un petit peu le tout dans le sens, bon, regarde, moi, je veux travailler à distance, moi, je veux faire du e-commerce, moi, je veux vendre puis je veux être en forte croissance. Est-ce que les mentors que tu vas choisir doivent avoir ces spécificités-là quand tu vas faire ton choix?
Oui, ils doivent avoir ces spécifications-là puis ils doivent aussi avoir cette expertise-là. Tu sais, exemple, là, en ce moment, on est dans le développement à l'international, donc on vise pouvoir s'implanter. Fait que c'est sûr que mon mentor que je vais approcher, c'est un mentor qui a déjà, depuis au moins plus de 10 ans, une entreprise à l'international et qui a toutes les connaissances, autant fiscales, comptables, logistiques, pour développer une type d'entreprise comme ça. Donc oui, c'est super important à mes yeux aussi.
Fait que tu prends la personne qui l'a fait 5-10 ans avant toi, puis par la suite, tu t'entoures, puis tu vas chercher le maximum de connaissances que cette personne-là a.
Ouais, de connaissances puis d'expérience. Parce que les mentors qui sont plus âgés que nous ou qui ont beaucoup plus d'années d'expérience que nous, ils ont tellement à nous apprendre, à mes yeux, ils ont un bagage au même niveau qu'un grand-parent ou un bagage sur la vie personnelle. Donc, oui, tu sais, puis honnêtement, mes mentors, quand ils me disent quelque chose, je les écoute. Je ne doute pas de leur crédibilité. Quand ils ont une vision complètement différente de la mienne, je prends vraiment le temps de réfléchir, je prends le temps d'aller chercher aussi une autre contre-expérience pour voir est-ce que je suis complètement dans l'erreur. Donc, je double vérifie aussi beaucoup. Donc, je prends le maximum des connaissances ou des connaissances autour de moi pour reposer ma décision sur ça. Est-ce que j'ai toujours suivi les conseils de mes mentors? Pas toujours, parce qu'on fait c'est important aussi qu'on suive sa voie là-dedans, sa propre voie là-dedans, mais de façon générale, je prends le maximum d'informations de des gens qui m'entourent, qui ont des expériences uniques ou des expériences de travail différentes, puis je prends de ça, je prends la meilleure décision possible.
T'es capable de nous donner des anecdotes? Parce que là, bon, t'as l'air d'avoir beaucoup de gens qui te conseillent. Y a-tu un moment dans, bon, la courte période d'existence de la clinique virtuelle, quand même, on l'a dit, ça fait 18 mois que vous êtes en affaires, 12 mois que vous vendez des produits physiques. Est-ce que dans cette période-là, il y a eu un moment, à un moment donné, que tu t'enlignais sur une décision spécifique, que tu dis, OK, là, c'est là que je m'en vais. T'as contre-vérifié ta vision avec d'autres personnes proches de toi que t'as confiance. Ils l'ont challengé, puis finalement, t'es allé d'un autre côté, ou l'inverse.
Oui. On va donner un exemple bien
court. Je veux une anecdote, là. Une anecdote croustillante, là.
En fait, je vais donner un bon exemple de moi qui n'a pas écouté, qui a fait à ma tête parce que j'ai beau avoir de mon temps sans m'éviter bien des erreurs, mais des fois, je fais quand même attention parce que je continue de penser qu'il faut être capable de suivre sa voie. Fait que je vais donner un bon exemple. Un de mes mentors, lui, est persuadé que c'est pas nécessaire d'avoir un volet service pour que la clinique virtuelle continue sa croissance comme elle est là. Notre vache a listé nos produits. Les gens sont intéressés par nos produits thérapeutiques. Et depuis le début, depuis le jour 1, ils questionnent l'intérêt d'avoir des services. En lien avec tout ça, en lien avec les codes de déontologie, toute la réglementation, toute la complexité que ça génère, sachant aussi que la marge de profit en nous, je sais pas si la majorité des autres c'est l'inverse, mais nous c'est très l'inverse. La marge de profit service est très très minime et la marge de produit est beaucoup plus grande.
Mais je pense que le point à mentionner là-dessus, c'est, puis corrige-moi si je me trompe, une des raisons pourquoi vous allez avoir une marge de rentabilité beaucoup moins élevée au niveau des services, c'est que, là, tu l'as mentionné plus tôt, vous outsourcez votre volet service, chose qui habituellement, quand une entreprise va vendre des services et des produits, les services vont souvent être faits à l'interne, puis c'est là qu'à partir de là, tu es capable d'avoir, disons, une plus haute marge de profit.
Oui, ben en fait, mais nous, dans la réalité de notre service à nous, le service qu'on parle entre autres, c'est exemple un professionnel de la santé qui va émettre une consultation. Nous, d'un, les honoraires chargés sont régis par des codes de déontologie. Donc, tu peux pas dire, ben moi, mon tarif de consultation va être deux fois plus élevé parce que je suis une entreprise puis je vais prendre une cote là-dessus. Donc, on va se dire, la tarification doit respecter les normes de la profession. Puis là-dessus, ben tu dois payer ton professionnel digne de ses honoraires aussi. Fait que c'est sûr que la marge de profit est peut-être de 5 % 10 % parce que 90 % du profit va au professionnel qui paye son propre bureau puis qui paye sa propre cotisation. Fait que tu peux pas dire, ben moi, je vais prendre 50 % de ta cote sur ta même si c'est moi qui donne ton client parce qu'il va dire, ben moi, je travaillerai pas à n'importe quel salaire.
On pourrait quasiment dire que c'est, si mettons, on fait un parallèle, c'est quasiment plus un service de broker, entre parenthèses, où est-ce que tu mets en connexion des professionnels et également des gens qui ont ce besoin-là. Mais c'est ça. Fait que c'est pas tant le terme purement service, il faut y mettre un petit astérisque ici là pour qu'on soit capable de bien l'analyser là.
Ouais. Donc bref, au début à la base, un de mes mentors, c'est sûr, s'il écoute le podcast, il va rire, mais depuis le début, il questionne à savoir l'intérêt d'avoir un service. Puis pourtant, moi, je vois une belle valeur humaine, une belle complémentarité avec nos produits. Fait que ça en est un des exemples que je suis comme malgré des opinions confirmées, j'ai décidé de maintenir mon volet service. Puis aujourd'hui, ben quand on fait face à une investigation, qu'on a énormément de documents à remettre parce qu'on est sous investigation par des autres professionnels, puis que c'est pas ta vache à lait, puis que c'est même pas toi qui dessert ce type de service-là, ben tu fais comme calique, tu sais, pourquoi j'ai pas écouté? tu sais, mon mentor qui avait d'expérience, qui depuis un an qui me répète la même affaire, là, ben ça en est un bon exemple, tu sais, des fois. Tu sais, je sous-estimais un peu le pouvoir des enquêtes d'investigation. Je sous-estimais la lourdeur de tout. Je m'étais dit, bon, si on fait face à une enquête, c'est pas grave, on répondra aux questions, puis nous, on s'assure qu'on est réglementaire, puis on l'est. Mais il faut quand même, après ça, aller se défendre devant ça. Il faut quand même, c'est notre responsabilité de prouver tout ça, qu'on est conforme. C'est notre responsabilité de fournir toute la documentation reliée à ça. Donc là, je vais perdre probablement 3 semaines d'opérationnel parce que je suis en train de juste focusser sur bien faire les choses au niveau de mon investigation. Fait que, tu sais, c'est 3 semaines où est-ce que mon focus est ailleurs dans un élément qui est pas important. Tu sais, ça devient un bon exemple.
Puis le focus quand t'es une entreprise qui démarre parce que t'es encore dans ce processus-là est très, très important. Le focus, c'est un luxe que tu peux pas te permettre de perdre le souvent quand tu débutes. Fait que c'est quand même un bon exemple. T'en as-tu d'autres enquêtes, là? C'est toujours intéressant d'avoir des anecdotes comme ça, là, sur un podcast.
Ben oui, je peux en donner un autre, un beau conseil que j'ai écouté, en fait, pour une fois. ça en est un autre exemple. On est en réflexion, là, on est en train d'amorcer toute notre migration vers les États-Unis. Dans ma tête, c'était clair qu'on allait incorporer une entreprise d'identité distincte aux États-Unis, qu'on allait incorporer puis maintenir la clinique virtuelle. Puis la clinique virtuelle, c'est un nom québécois. Fait que je me suis dit, on va créer un brand anglophone, ça va être complètement 2 entités différentes. Puis là, je m'étais dit, on va vendre la clinique virtuelle, puis on va être opérationnel juste aux États-Unis. Puis là, ben, je parlais de tout ça avec plein d'entrain à mon mentor, puis il était comme, ben, pourquoi tu te casses la tête comme ça? Pourquoi tu veux avoir 2 entités? Pourquoi tu vas avoir 2 législations? Pourquoi tu vas avoir 2 incorporations quand t'es capable de tout opérer via la clinique virtuelle? Puis là, tu sais, il me disait ça, puis j'étais comme, c'est vrai, pourquoi je suis tout en train de complexifier ça de même alors que ça fonctionne déjà super bien, tu sais? Fait que tu sais, ça en a un autre exemple. Fait que finalement, moi, là, dans ma tête, j'avais fait des gros graphiques avec des incorporations un peu partout. Puis là, j'avais dessiné toute la logistique avec un gros tableau, puis j'étais comme, ça m'a rendu ça, la clinique virtuelle. Pour que finalement, ben après la discussion avec mon mentor, ben c'est revenu avec un dessin très 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 simple qui est pratiquement la même structure qu'on a là actuellement. ça me donne un exemple. J'aurais fait une énorme erreur, j'aurais complexifié tout ça, puis probablement que je me serais engorgée d'administration si j'aurais suivi juste ma tête, puis que j'aurais pas eu nécessairement le conseil d'un de mes mentors là-dedans. Un autre aussi, tu sais, j'en donne un autre rapidement. À un moment donné, tu sais, là, ça va super bien, nos produits vont bien. J'étais comme, là, on va développer un software notre propre software pour envoyer des vidéos, des capsules sous forme de membership à nos membres. Ça va être super malade. Puis j'ai un de mes mentors que j'ai approché par rapport à ça, par rapport à mon idée, parce que lui, il fait ça, développer des softwares. Puis il était comme, premièrement, tu sais, c'est très, très difficile de développer un software. Ça prend énormément de cash flow. Il était comme, t'as-tu 2 millions à mettre là-dedans? Parce que c'est ce que
c'est impossible.
Il me donnait la vraie réalité de développer un software, qu'est-ce que ça implique et tout ça. Fait que, tu sais, ça m'a désenchanté. Ben, ça m'a pas désenchanté. Ça m'a rassuré sur ma chaise. Puis, ce moment-là, faut que je sois beaucoup plus préparée, tu sais. Puis, il était comme, si tu t'en vas là-dedans, tout de suite, je peux te garantir que t'es fermé dans pas longtemps.
La réalité, c'est que ça serait peut-être sorti également de ton process de choix, tu sais.
Exact. Il était comme, puis c'est ce qu'il m'a montré. Il m'a montré le reflet de tu t'éloignes complètement de ta mission, tu t'éloignes de ce qui fonctionne là bien. En ce moment, tu as un modèle d'affaires qui fonctionne super bien, qui est simple, qui te permet d'atteindre une croissance, tu sais, on va augmenter encore plus cette croissance-là. Puis là, tu arrives avec un projet qui risque de tout ébranler ce que tu viens de mettre en place, puis qui a probablement plus de chances de failer que de réussir. Fait que, tu sais, ça en est un autre bon exemple de l'importance d'avoir un mentor. Quand il m'a tout montré ça, puis qui m'a permis d'avoir un pas de recul par rapport à mes idées qui étaient peut-être un peu trop grandes, ça, tu sais, ça fait vite. Puis, tu sais, clairement, ce projet-là, je dis pas qu'il est fermé, mais il est sur pause, tu sais.
Ouais, je comprends. Puis, regarde, parlons de ça. Le futur. C'est quoi le futur de Caroline Brousseau? C'est quoi le futur de la clinique virtuelle? Parce que là, première année impressionnante, rapide. Bon, tu le dis, il y a eu certains enjeux récemment. Mais bon, ça fait partie du jeu, tu sais. Tout peut pas être beau tout le temps. Tout le monde va se retrouver facile. C'est quoi le futur? Qu'est-ce que 2021, 2022, 2023 vont être pour Caroline?
Ben, en fait, c'est sûr qu'en ce moment, dans le rapprocher notre futur, là, notre focus en ce moment, c'est le développement international. Donc, pour moi, ça faisait partie de mes critères. Je voulais avoir dans mon DDPA, j'avais mes critères d'avoir une entreprise qui était sans limite au niveau de l'expansion, de la croissance. Donc, je voulais clairement une entreprise internationale, non une entreprise uniquement québécoise ou uniquement canadienne. Donc, c'est ça le futur rapproché. C'est sûr que la mission à la base de la clinique virtuelle, c'est de devenir la plateforme de référence qui est en ce qui est de matière de services et de produits psychologiques. Si tu vois pas bien, je veux que la première pensée des gens, ça soit la clinique virtuelle. Puis tant que j'aurai pas atteint cet objectif-là, qu'on ne deviendra pas la clinique de référence en matière de services virtuels pour la gestion du stress et de l'anxiété. Ben moi, c'est ça mon objectif. Puis c'est sûr qu'à la base, c'est quand on vend une entreprise, il y a plusieurs types de missions derrière de ton entreprise. Il faut déjà que tu saches au début. Mais moi, à la base, la clinique virtuelle, c'est une entreprise que je veux vendre. C'est quand que je la construis, toutes les décisions que je prends en ce moment sont faites sont toujours calculées, sont toujours mesurées dans l'optique que moi, je veux vendre cette entreprise-là. Donc, mon objectif, moi, j'aime démarrer des projets, j'aime démarrer des entreprises, fait que je me vois pas travailler 40 ans de temps dans mon entreprise. Alors qu'il y a d'autres entrepreneurs que c'est ça leur bébé. Eux, ils pondent le bébé puis ils veulent le voir grandir. Moi, je vais en pondre plein de bébés. Fait que l'entreprise, ben, elle est créée, elle est faite comme ça à chaque fois qu'on signe des contrats ou des départements. Moi, je m'assure aussi, puis tu sais, c'est un peu en lien avec la logistique. Pourquoi je suis hands-off en lien avec beaucoup d'affaires, c'est que cette entreprise-là doit être vendue un jour. Et si je suis celle qui opère tout et qui fait tout moi-même, c'est très difficile de vendre une entreprise quand c'est toi qui est la personne qui contrôle tout, qui fait tout, parce que toi, tu peux pas te vendre. Faut que cette entreprise-là, tu sois capable de la donner à quelqu'un, puis qu'il soit capable d'opérer cette entreprise-là, c'est ça que ça a d'impact le jour où est-ce que t'es plus là. Donc, c'est aussi une autre des raisons pourquoi cette entreprise-là, elle est buildée. Puis faites en sorte que je suis capable d'être de n'importe où, puis que si demain matin je suis plus là, ben cette entreprise là s'opère de la même façon sans qu'il y ait de conséquences. De ça, je suis vraiment pas indispensable à cette entreprise là.
Intéressant, j'adore ça. Te parler un peu plus tôt dans le podcast, Caro, que tu lis, que tu écoutes des podcasts, que tu t'éduques beaucoup. Parle-nous un peu de ça. Là, garde, bon, pour les gens qui nous écoutent, là, moi et Caro, on est en vidéo, puis les deux, on a un bon amour de Russell Brunson. Donc, moi, j'ai reçu mon livre la semaine passée, Traffic Secret.
Je suis jalouse parce que moi, j'ai pas encore reçu. Je pense qu'ils ont perdu mon colis.
Tu l'as pas reçu encore?
J'étais aux États-Unis. J'aurais dû le recevoir en premier avant les gens du Canada, mais en tout cas, je pense qu'ils ont perdu mon colis.
Ouais, ben, il y en a peut-être trop à chipper lui aussi. Il y a peut-être eu des problèmes d'inventaire parce que, aux dernières nouvelles, je crois que c'est assez populaire. Donc, bref, également, moi, je suis un très grand lecteur. Je veux t'entendre là-dessus. Qu'est-ce qui a peut-être marqué ton esprit dans les derniers mois, dans les dernières années en termes de lecture qu'on pourrait conseiller aux gens qui nous écoutent?
Hey boy, je pose pas ça à la bonne question, à la bonne personne, parce que je lis énormément de livres, mais j'ai une mémoire de poisson sur qui a écrit les livres et quels sont les titres des livres que j'ai lus. Fait que je suis vraiment gênée, là, parce que je pourrais te donner une liste. Si tu m'aurais donné cette question-là d'avant, j'aurais pu me préparer. Mais Brandon Woosol, j'ai lu tous ses livres, là. Pour moi, je veux dire, c'est un incontournable.
Russell Brunson?
Ouais, c'est ça l'affaire. Je peux pas donner des titres et des noms, là, je vais mélanger les titres ensemble, les noms. Mais j'ai lu toutes ces, je pense qu'il y en a 3 ou 4 au total des livres. Là. Je les ai toutes lues sur la Bible. Je veux dire, sont signés avec 150 post-it partout. N'importe qui est dans le domaine du marketing, du e-commerce, c'est un incontournable. Ça s'applique à n'importe quel type de business. Un livre que je viens de me rappeler aussi, que j'ai lu, que j'ai beaucoup aimé, c'est L'Océan Bleu. Je sais pas si ça dit quelque chose.
Non, oui, je connais.
OK, le concept des océans bleus versus les océans rouges. Donc, comment tu réussis à te démarquer? Qu'est-ce que toi t'offres de différent que tout ce qui existe? Donc, la façon aussi de communiquer qui était super important. Bon, c'est sûr que j'ai lu la méthode lui qui bâtit des startups avec rien, là, puis là, il te donne les meilleurs conseils. Le livre, il est bleu, là. Je sais qu'il est bleu.
Je suis en train d'en préparer un également pour toi que je vais te montrer qu'il faut que tu achètes. Un livre, toi qui aimes beaucoup les livres de marketing à la Russell Brunson. Ça, je pense que tu vas beaucoup aimer. Je te montre ça à l'instant. Je sais pas si tu l'as lu, c'est un livre de Jay Abraham, Getting Everything You Can Out of All You've Got. Un livre que j'ai lu l'année dernière quand j'étais en Espagne en voyage qui m'a fasciné. Complètement incroyable ce livre-là. C'est un livre qui a des conseils marketing, des conseils business. Jay Abraham, c'est un brain, comme il s'en fait très, très peu. Donc, peut-être tu peux mettre ça également dans ta to-do de lecture.
Tu sais, ben, de longtemps, tu m'avais donné un livre à lire qui était Dog Shoes.
Ouais, exactement. Ben, c'est Shoe Dog, le livre de fondateur de Nike, ouais.
Mais il y a un qui peut avoir une écrit, c'est un de mes pires défauts, la mémoire, vraie mémoire de poisson. C'est un livre qui m'a, qui...
Tu l'as lu?
Ouais, je l'ai lu. Je pense que je suis pas dans mon bureau, mais il est encore sur mon, c'est le livre que je viens de finir dernièrement, justement. Je sais pas ce que tu retiens de ce livre-là, mais moi, à chaque fois que je finis de lire un livre, je me dis toujours qu'est-ce que je retiens de ce livre-là, parce que c'est impossible de retenir tous les chapitres, mais de chacun des livres, il y a une affaire ou deux que j'ai retenu, que j'implante dans mon entreprise, sans aucun doute. Et ce que je sais pas toi, qu'est-ce que tu as retenu de ce livre-là, mais entre autres, ce livre-là, moi, ce que j'ai retenu, c'est la proximité qu'il y avait avec ses clients. Donc, malgré toutes les embûches qu'il y a eu, mais tu sais, il y en a eu des moments tough, ce gars-là. Là. Mais il y a un focus que j'ai jamais perdu, c'est la proximité qu'il y avait avec ses clients, de toujours améliorer son produit, de vérifier avec ses produits, de tout le temps sortir une meilleure version selon les commentaires de ses clients. Puis ça, c'est quelque chose que... En fait, ça confirme ce que je fais dans mon entreprise parce que cette proximité-là avec les clients, nous, moi-même, là, j'appelle mes clients pour demander comment tu as trouvé la clinique virtuelle, y a-t-il quelque chose qu'on peut faire pour améliorer?
Ben, je pense que Shoe Dog, le livre de... Parce que là, regarde, c'est bon, tant qu'à être là, on va parler un peu de livre. Le livre Shoe Dog du fondateur de Nike, ce qui est complètement fascinant de ce livre-là, c'est que de un, bon, le Phil Knight, c'est un entrepreneur, c'est un businessman. Mais il a une plume de storytelling complètement incroyable. Tu tombes dans ce livre-là, puis tu peux comme pas en sortir. C'est littéralement un film qui te met dedans. C'est, j'imagine à un certain point qu'il va y avoir des films et des séries Netflix d'ailleurs qui vont sortir sur l'histoire de Nike, qui est complètement fascinante. Là, tu te rends compte que cette entreprise-là est née d'un voyage que lui a fait en Asie, qui a fait une négociation de dernière minute avec un fournisseur qui est revenu. On dirait que tout, puis bien entendu, à un certain point, c'est romantisé, là, je veux dire, ça n'a pas du tout arrivé à 100% comme ça. Mais moi, ce que je retiens de l'histoire de Nike, c'est que lui, il mettait tout le temps tout sur la ligne. Il était tout le temps là à deux doigts de la faillite, tous les jours.
Vraiment?
Il n'y avait plus une scène. Un jour, il était moins 100 000. Le jour d'après, il venait de recevoir ses comptes recevables. Il retombait à plus 50 000. Il refaisait un achat, il était tout le temps en train de dealer avec les banques. Ça avait l'air d'être un cauchemar pendant plusieurs années, pendant des dizaines d'années. C'était comme ça avant qu'éventuellement il y ait un petit peu plus de prospérité. Mais c'est impressionnant de voir comment. Puis d'ailleurs, tant qu'à être là, qu'on transforme ça un peu un podcast de lecture, je suis en train de terminer. Bon, c'est pas un nouveau livre, ça, c'est la biographie de Elon Musk, qui a été écrit, je pense, qui est en 2015. Fait que bon, il y a quand même les cinq dernières années ont été assez riches en expérience pour Elon Musk. Fait qu'on peut pas le retrouver là-dedans. Mais quand même, il y a des grandes similitudes avec Elon Musk et Phil Knight. C'est des gens, Elon Musk, qui mettent tout sur la ligne tout le temps. Ils ont ils ne comprennent pas le risque. Ils ne comprennent pas le risque. Pour eux, c'est partie courante. On peut tous prendre des risques dans la vie, mais à un certain point, il y en a qui en prennent des plus gros que d'autres. Puis force est d'admettre que j'ai l'impression que les gens qui réussissent des choses extraordinaires dans ce monde sont les gens qui prennent des risques incroyables à chaque jour. Et Elon Musk et Phil Knight en sont deux bons exemples.
Écoute, c'est drôle que tu parles de risque parce que le jour où est-ce que j'ai lancé mon entreprise, je me rappelle même pas qui a dit ça, mais c'est une phrase que je vais me rappeler toute ma vie, puis je suis sûre que dans 40 ans, je vais m'en rappeler. Mais la première phrase que j'avais lue, c'est que tes risques que tu prends doivent être proportionnels à tes ambitions. Puis je suis tellement d'accord là, je pense que tu sais, la croissance que tu veux de ton entreprise ou où tu veux être, il faut que ça soit proportionnel à la grandeur des risques que tu es prêt à prendre. Moi, je me rappelle que j'avais lu ça, puis quand j'avais lu ça, vraiment c'est un coup de tête là. À ce moment-là, j'avais une job gouvernementale de 8 à 4 là, avec une maison puis une vie là, bien classique. Le jour où est-ce que j'ai lu ça, j'ai décidé de lâcher ma job, j'ai vendu ma maison.
Ah ouais.
J'ai lâché ma job gouvernementale de 8 à 4. J'ai vendu ma maison, parce que dans ce temps-là, j'habitais en Abitibi-Témiscamingue, je suis originaire d'Abitibi. J'ai vendu ma maison, je me suis séparée, puis j'ai emménagé à Montréal. Parce que dans ma tête, c'était clair qu'il fallait que mes fournisseurs, puis c'était clair que le cœur entrepreneurial se passait à Montréal. Fait que j'ai tout lâché, je me suis en allée là, puis je me suis dit, bon, par où je commence? J'ai loué une chambre avec un matelas à terre. Là. Ça fait 5 ans, tu sais... La clinique virtuelle, c'est pas ma première entreprise. Ça fait 5 ans de ça, le jour où est-ce que j'ai décidé de me lancer en entrepreneuriat, donc j'avais besoin de cash flow. Fait que c'est pour ça que j'avais vendu ma maison. De deux, je voulais être dans un milieu, je voulais m'entourer de des gens où est-ce qu'il y avait une culture entrepreneuriale, clairement, à Montréal, c'était la place White. Fait que je suis vraiment partie avec ma valise, rien, puis mon chien. Puis 5 ans plus tard, je suis complètement ailleurs, là.
Ouais, là, rendu aux États-Unis, là.
Oui, c'est ça. Maintenant, je suis rendue avec une business qui va être bientôt internationale. Je travaille de n'importe où. T'sais, je suis plus du tout à la même place il y a 5 ans, mais ce risque-là, il a voulu le faire. Puis, tu sais, souvent, il y a plein de gens qui ont plein d'idées, Tout le monde a cette possibilité-là d'être entrepreneur, tout le monde a ces idées-là, tout le monde a cette vision de grandeur-là, mais il n'y a pas tout le monde qui est prêt à prendre des risques, il n'y a pas tout le monde qui est prêt à tout perdre. Et moi, je me suis dit, c'est quoi? Moi, je vais acheter tout de suite tout ce que j'ai, comme ça, je vais arrêter d'avoir peur de perdre quelque chose.
Wow. Non, mais garde, je suis d'accord avec toi. À un certain point, à un moment donné, faut que tu prennes le taureau par les cornes, puis tu regardes un petit peu c'est quoi tes ambitions, puis tu sois capable de placer les actions. Je pense que c'est Gary Vaynerchuk qui dit ça, là. Tes actions doivent matcher tes ambitions. Puis c'est beau le voir, mais faut l'exécuter. Fait que
tu peux pas rêver d'avoir une business. Tu sais, en fait, c'est la première, avant même de partir en affaires, c'est la première question qu'il faut que tu te demandes, c'est quoi mes ambitions? Parce que c'est correct de dire, ben moi, je veux juste avoir une entreprise qui va couvrir, qui va me permettre de vivre, tu sais. Puis c'est différent, la façon de faire puis la façon de se lancer là-dedans est différente quand tu veux avoir une entreprise juste pour vivre. Versus quand tu vas avoir une entreprise internationale que tu veux vendre le plus rapidement possible. C'est complètement différent.
On est d'accord. On a parlé un peu de lecture, podcast. Tu dis que tu en écoutes un peu, que ça a l'air d'être quelque chose qui est sensiblement un rituel chez toi. T'es-tu capable de nous parler un peu des podcasts que tu as trouvé bons récemment?
Oui, ben je tiens à dire que c'est difficile pour moi d'écouter des podcasts parce que je commence à les écouter puis je fais plein d'autres affaires en même temps. Fait que
c'est la beauté d'un podcast, hein? Tu peux faire deux choses en même temps.
Ben c'est sûr que je te cacherai pas d'entendre ton podcast, je l'écoute parce qu'on se connaît puis parce que ça parle d'hypercroissance puis c'est rempli d'histoires d'entrepreneurs qui ont toutes des histoires différentes. Fait que toutes les gens que t'invites, je trouve ça tout le temps pertinent. Puis en plus, on se connaît, fait que j'aime ça.
T'en as-tu un qui t'a plus fasciné que d'autres dans les invités qu'on a eus?
Ben là, tu sais, moi je suis vendue à Coco Village, là. fait que c'est sûr que c'est le podcast que j'ai le plus écouté puis que je réécoute encore. Il y a des fois j'ai des questions puis je suis comme ah, oh, je vais aller écouter qu'est-ce qu'il fait Coco Village ici. Puis là c'est drôle parce que on est en train de bâtir le site internet pour qui va être la clinique virtuelle aux États-Unis. Fait que là c'est drôle parce que mon fournisseur qu'on choisissait m'a demandé une liste un top 3 des sites internet que j'aimais, mais en fait j'en ai donné juste un, puis c'est le site de Coco Village.
Oh boy, fait qu'on va dire ça à notre ami Johan, il va être content.
Oui, vraiment, c'est mon idole. Son entreprise est mon idole, en fait. Je ne connais pas lui personnellement. Fait que un des podcasts que j'ai écouté longtemps aussi, puis qu'encore j'écoute, c'est Les Dérangeants. Comme ça.
Fait que t'es dans le milieu francophone quand même. T'écoutes des podcasts au niveau franco, c'est bien?
Ouais, parce que bon, j'ai des petits déficits d'attention. Fait que écouter des podcasts en anglais, en plus de faire plein de choses en même temps, ben ça fait que finalement, c'est plus facile quand tu écoutes un podcast dans ta langue initiale puis tu fais d'autres choses en même temps que quand tu l'écoutes en anglais, ça devient comme juste un bruit arrière-plan que tu te concentres.
100%.
Donc, au niveau des podcasts, les autres que j'écoute, ben c'est sûr que j'écoute aussi des podcasts de développement personnel parce que je suis dans le domaine là-dedans. Un que je suis beaucoup aussi, c'est Danielo, tu le connais. Encore là, c'est dans le francophone, mais je trouve ça important de savoir. Nous, on vous a engagé pour faire toute notre publicité. Vous avez comme vraiment toute ma confiance, vous avez comme carte blanche sur tout. Mais je trouve ça important d'écouter des podcasts sur le Facebook Ad parce que c'est important que je comprenne les termes, que c'est important que je comprenne les ratios, les métriques, comment ça fonctionne. C'est important pour moi de comprendre cette machine-là. Mais tout ce qui est podcast sur le marketing, même si c'est pas moi l'experte en marketing, même si on a signé des contrats avec des firmes vraiment compétentes, je trouve ça important de développer ces. En soi, fait tout ce qui est podcast sur le marketing, tout ce qui est podcast sur le e-commerce aussi. Je suis là, tu sais, je suis beaucoup dans la journée, là, tous les congrès aussi qui sont sur les journées internationales de e-commerce. Ces congrès-là, je suis tout le temps là aussi. Les congrès aussi à Québec là, sur les nouvelles tendances numériques, je suis là aussi.
Tu tiens à jour, c'est une bonne chose. Puis, je te pose une dernière question, Caro, avant de te laisser filer. Il y a beaucoup de gens également que je côtoie puis que j'interview qui ont des routines. Okay? Donc là, je parlais avec Martin Latulippe hier sur le podcast Hypercroissance. Puis là, il me dit que présentement, il se réveille à, je me rappelle pas quelle heure tous les matins, mais là, il s'entraîne pour faire un triathlon. Donc, tu sais, il est focusé. Puis là, bon, c'est dans sa routine. Au-delà d'une routine sportive ou peut-être que tu en as une, y a-tu des choses que tu fais à tous les jours pour être certain que ta concentration est continuellement au rendez-vous quand tu as à faire tes affaires? Parce que comme tu le dis présentement, tu travailles beaucoup. Une business en croissance, faut que ton cerveau soit au bon endroit. T'as-tu une routine qui t'aide à mieux structurer le tout?
Non.
Non?
Je suis la personne la plus déséquilibrée dans sa vie personnelle et professionnelle. Donc, je ne suis pas l'exemple à suivre. Je suis celle qui travaille au petit 12. Moi, là, on est toujours lundi. Là. Je ne sais jamais quand on est. Je sais jamais on est quelle journée. Là. Moi, si quelqu'un me demande on est quelle journée, je ne sais pas. Là. Donc, les fins de semaine, les semaines, pour moi, ça n'a pas de notion. En fait, mon horaire de travail suit la charge et le développement de mon entreprise. C'est qu'il y a des périodes où est-ce que je travaille 12 heures par jour. J'ai une de ces forces-là dans mes, autant qu'on a des forces puis des faiblesses en tant qu'entrepreneur, moi, j'ai une capacité de production vraiment importante. Je peux travailler 12 heures de temps. Je me lève à 5 heures le matin, il est rendu minuit le soir, donc j'ai même pas mangé, j'ai pas pris connaissance du temps, je me suis même pas rendu compte de ce qui s'est passé à l'extérieur. S'il y a une bombe nucléaire, je suis même pas au courant parce que je suis focus sur ce que j'ai à faire. Je me lève le matin, je sais exactement toutes les tâches que j'ai à faire et je ne quitterai pas mon ordinateur tant qu'elles ne seront pas faites. Donc, ce qui fait, puis il y a des périodes aussi dans mon entreprise, c'est très, très, très intense, comme là en ce moment. Mais après, il y a des périodes où est-ce que c'est l'académie, tu sais, puis ces journées-là, ben, je vais peut-être travailler peut-être du 3 heures, 4 heures par jour, alors que ça fait peut-être 3 mois que je fais du 12 heures par jour. Donc, jamais de journée qui est pareille, il n'y a jamais des périodes qui sont pareilles non plus. Donc, moi, je ne suis pas routine, je suis pas, j'en ai pas moi de routine comme ça, de déjeuner stable. Puis,
intéressant.
Moi, je peux souper à 3 heures du matin, il n'y en a pas de problème, je m'en fous, là.
J'adore ça, Caro. Mais c'est bon parce que chaque personne est différente. Chaque personne est différente. Puis le plus important, c'est que tu sois capable de le savoir pour toi, ce qui fonctionne. Moi, je serais pas capable. Je suis quelqu'un qui est assez militaire dans son approche puis dans ses routines. Mais tant que tu le saches, puis t'es capable de suivre un petit peu ton process, c'est là que tu risques d'avoir du succès. Caro, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Pour les gens qui nous ont écoutés puis qui voudraient en savoir un petit peu plus sur toi, comment qu'on peut en savoir plus sur Caroline Brousseau? Comment qu'on peut en savoir plus sur la clinique virtuelle? C'est où les meilleurs endroits pour vous rejoindre?
Ben là, pour rejoindre Caroline Brousseau, la meilleure façon, c'est mon téléphone. Je suis pas active sur les réseaux sociaux. J'ai pas de page personnelle. Mais par contre, s'il y en a qui ont envie de suivre l'évolution de la clinique virtuelle, ben c'est sur la page de la clinique virtuelle. On a un beau site internet aussi, clinique-virtuelle.com. On a une super belle communauté sur les réseaux sociaux. On est très présents sur Facebook. C'est là que notre plus grosse communauté. On démarre bientôt. L'Instagram est déjà parti, mais c'est pas notre. C'est quelque chose qu'on travaille en ce moment. Donc c'est pas ça dans le numérique. En fait, c'est vraiment la meilleure place pour me suivre. Sinon, ben bonne chance parce que je suis un peu partout à travers le monde à tous les jours. On sait même ma famille est comme là, t'es où exactement?
C'est bon, c'est la beauté de ton modèle d'affaires. Tu l'as bien choisi, tu l'as bien architecturé. Félicitations, je trouve que c'est un très beau succès ce que tu as fait dans la dernière année. Caro, un merci énorme. Je suis très content de t'avoir eu aujourd'hui. Puis je suis très content également que tu nous aies expliqué les hauts et les bas de tout ça parce que faut pas se le cacher. Des fois, on pense que l'hypercroissance, c'est un terme qu'on a utilisé là, pour notre podcast. C'est le thème du podcast. On parle de croissance, certes, mais faut aussi le mentionner. Des fois, il y a des bouts un petit peu plus compliqués puis il faut que les gens le sachent parce que c'est pas vrai que tu vas juste vivre de l'hypercroissance continuellement puis que tu vas jamais toucher certains enjeux. Après, c'est la manière que tu réagis à tout ça qui va faire en sorte si tu vas passer le prochain échelon.
Exactement. Puis je trouvais ça important de l'aide de façon transparente. Il y a beaucoup de gens qui envient le côté entrepreneurial, mais c'est fou de penser que c'est un beau conte de fées ou que c'est une histoire de princesse. C'est loin d'être le cas. Ça vient avec énormément de sacrifices. Je pense qu'il y a beaucoup de gens tant qu'ils n'ont pas sauté là-dedans, ignorent totalement tous les sacrifices qu'il y a en arrière de tout, tout le déséquilibre que ça peut engendrer chez un être humain aussi de faire face à autant de risques, autant de pression à tous les niveaux. Là.
100%.
Puis j'en profite aussi pour te dire que je suis vraiment contente d'avoir été invitée à ton podcast, Antoine, parce que d'un, c'était déjà un podcast que j'écoutais, puis d'aujourd'hui, que ce soit moi l'invité qui est dans un podcast hyper croissant. Quand tu as des embûches, tu sais, comme en ce moment, je suis en train de passer une période difficile avec les investigations, avec les conséquences des pandémies, mais quand tu te présentes un podcast hyper croissant, ben, ça vient faire un peu un velours sur tout ça puis dire, ben, tu sais quoi, tout ce que je fais, ça donne des résultats puis mon hypercroissance est là quand même puis mon entreprise est là quand même puis elle est stable. Puis quand t'es invité sur des podcasts comme le tien, malgré les périodes difficiles, t'es comme, good job, girl.
Ah ben oui, moi je te le dis, c'est assez impressionnant là. C'est tu fais ça seul, j'ai pas trop compris encore comment que t'as tout fait ça là, mais je suis capable de suivre les chiffres. Je me dis ouais, tabarouette, il y a quelque chose qu'elle a compris que beaucoup de gens n'ont pas compris. Donc félicitations encore, puis merci d'avoir été avec nous. Et pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance. Pour les gens qui opèrent des commerces en ligne, j'espère que l'histoire de Caroline a pu vous inspirer d'une quelconque façon. Avec une approche extrêmement lean, Caro a été capable d'atteindre les 6 chiffres mensuels et ce, très rapidement. C'est assez fascinant de voir comment les méthodes d'opérer ont évolué à travers les années. Également, si vous connaissez quelqu'un qui aurait sa place sur le podcast pour nous parler d'hypercroissance, je vous invite à m'écrire personnellement au email suivant agang@j7media.com, donc A-G-A-G-N-E, A commercial, J, le chiffre 7, media au singulier.com. Ça me fera un énorme plaisir de discuter avec vous.
Je termine en vous invitant à nous donner une note de 5 étoiles sur iTunes ou sur votre plateforme de podcast préférée. Vos commentaires sont également très appréciés. Sur ce, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance.